de Clermont-Ferrand. Que vas-tu faire de tes 27 années de vie ? 27 années de vie, n'est-ce pas l'âge adulte ? Encore chez papa et maman ? Je vous invite à lire quelques versets de la parole de Dieu, trois passages de la Bible dans le Nouveau Testament. Le premier se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 15 à 13. L'apôtre Paul nous dit ceci, « Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous, vous êtes le champ que Dieu cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu dans sa grâce m'a confiée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, dit l'apôtre Paul. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre, car celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Le deuxième texte se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 18, c'est la deuxième partie de ce verset. C'est Jésus qui parle, et ici chaque mot est important. « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Dernier passage dans Matthieu, toujours dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole en nous. Les nombreux textes du Nouveau Testament qui parlent de l'Église nous montrent en fait que celle-ci a une place essentielle dans le cœur et dans le plan de Dieu. Il nous est dit dans la Bible que Jésus devait mourir, je cite, « pour réunir en seul corps les enfants de Dieu dispersés ». Et les passages que nous venons de lire nous parlent de l'Église et de sa mission dans ce monde, dans la société. Ils nous disent que l'Église, c'est important de le dire, appartient à Jésus-Christ, c'est lui le chef. Que c'est lui qui l'a bâti, qui l'édifie, qui l'a fait croître et personne d'autre. Que l'Église va grandir et triompher coûte que coûte, car elle est l'objet de l'affection et des soins divins. Et en plus, cela, ces versets nous rappellent quelque chose d'incroyable qu'il faut savoir. C'est que le Seigneur nous utilise, il utilise chacun de nous, vous et moi, comme partenaires, comme collaborateurs, comme ouvriers dans l'édification de son Église. Cela montre, frères et sœurs, l'estime que le Seigneur a pour chacun de nous, la confiance qu'il nous fait. Il fait de nous des partenaires dans cette œuvre. Et dans ce rôle d'ouvrier du Seigneur, ces versets nous apprennent quelle est notre tâche. L'un des textes parle de faire des disciples, c'est-à-dire évangéliser, de baptiser, d'enseigner les nouveaux convertis. L'autre parle de planter et d'arroser, des images, donc planter et arroser l'Église du Seigneur. Bref, frères et sœurs, cela veut dire que l'évangélisation ne doit jamais être une fin en elle-même, quel que soit le type d'évangélisation, jamais une fin en elle-même, mais toujours un moyen pour atteindre un but, l'édification de l'Église de Jésus-Christ. L'édification de l'Église de Jésus-Christ. Et l'édification de l'Église de Jésus-Christ, c'est Église, bien sûr, au sens universel du terme, n'est-ce pas? Parfois, on parle d'Église invisible. Invisible, elle est visible au niveau local. L'Église, l'édification de l'Église passe obligatoirement par l'implantation d'Églises au niveau local, comme la nôtre et comme beaucoup d'autres. Le théologien Émile Brunner disait très justement ceci, « L'Église existe par la mission comme le feu existe en brûlant. » Elle existe par la mission, et j'ajouterai pour la mission aussi, pour la mission. L'Église qui perd de vue sa mission devient petit à petit comme un tas de braises qui s'éteignent. Et là, ça existe, n'est-ce pas, ce type d'Église ou cendrillon, comme disait un auteur chrétien, Église assise au milieu de leurs cendres, Église souffrant d'un grave trou de mémoire. Elles ont besoin du souffle du Saint-Esprit pour ramener à la vie ces braises qui sont en train de s'éteindre. Elles ont besoin que le feu soit ranimé. Vous savez où le feu a commencé? Le démarrage du feu a eu lieu il y a 2000 ans à Jérusalem, à l'église de Jérusalem, avec la descente du Saint-Esprit sur les chrétiens ce jour-là. Le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et la naissance de la première église chrétienne. Je sais bien que l'expression n'existe pas dans les textes bibliques, mais parfois on parle d'église mère. Église mère. Et si on veut parler en termes d'église mère, on sait ce que cela veut dire. Une église mère, c'est une église qui donne naissance à des filles. Une église qui donne naissance à d'autres églises. La première église mère, c'était l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'est elle qui a déclenché le feu. C'est elle qui a déclenché ce processus dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans l'arbre généalogique de l'église, il y a à la base l'église chrétienne de Jérusalem. Les chrétiens de cette église ont implanté d'autres églises, qui ont implanté d'autres églises, qui ont implanté d'autres églises, qui ont implanté d'autres églises. Non, le disque n'est pas rayé. C'était comme ça depuis 2000 ans. Des églises qui implantent d'autres églises et qui ne s'arrêtent pas d'implanter des églises. Même si au cours de l'histoire de l'église chrétienne, il y a toujours quelques Jonas qui ne veulent pas aller à Ninive. Mais ils iront, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a tout fait pour que Jonas aille à Ninive. Les églises, heureusement, ne cessent pas d'implanter des églises. Car les églises ont en vue le mandat que le Seigneur leur a confié d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle partout, n'est-ce pas, tous les hommes. C'est le mandat du chef, c'est la mission que le chef nous a donnée. Et si le chef de notre église est le Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller dans ce sens-là. Et grâce à cela, grâce à cette stratégie d'implantation et de multiplication d'églises, pour les plus anciens, en septembre 1983, après Jésus-Christ, n'est-ce pas, la famille Perkins est venue s'installer ici à Clermont-Ferrand. Et cette famille, avec l'aide de la famille Turquet, a commencé une petite implantation d'église ici dans cette ville, une église baptiste. Et ce, grâce non seulement à l'appel que le Seigneur a adressé à cette famille de venir ici, s'installer dans cette ville, à leur vision missionnaire, mais aussi, et je pense que cela est important de le dire parce que nous avons parfois tendance à oublier, n'est-ce pas? C'est bien de se rappeler, grâce au soutien d'autres chrétiens dans d'autres villes que nous ne connaissons même pas, grâce à leur soutien dans la prière, grâce à leur argent, l'argent qu'ils ont envoyé pour que cette famille puisse vivre ici dans cette ville, grâce à eux. Aujourd'hui, nous sommes une grande église quand même, hein? Ce n'est pas un petit groupe qui est là. Grâce à cette stratégie, et à cette vision qui nous vient du Nouveau Testament et de la part du chef de l'Église, Jésus-Christ, nous devons continuer à faire la même chose. Et c'est grâce à cela que nous avons aujourd'hui une église baptiste ici, parmi d'autres églises, bien sûr. C'est grâce à cela que l'Église ne cesse de se répandre partout dans le monde. Et lorsque l'apôtre Paul parle de planter, d'arroser, d'édifier l'Église, cela veut dire qu'il fait référence à des étapes dans la vie de l'Église de Corinthe. Il y a bien sûr des étapes dans la croissance d'une Église. Et je crois qu'on pourrait parler de quatre étapes, quatre périodes dans la vie d'une Église. D'abord, la période prénatale, celle où deux, trois ou quatre chrétiens commencent à se réunir pendant un certain temps, quelque part dans une salle de séjour de l'une de leurs maisons ou dans la cour de la maison. Certains dans le Nouveau Testament se réunissaient au bord d'une rivière, n'est-ce pas? N'importe où, ils commencent à se réunir parce qu'ils ont en vue le mandat du chef, l'implantation de son église quelque part dans une ville, dans un village. Et ils sont encouragés, soutenus, portés toujours par d'autres chrétiens, d'une autre église ou d'autres églises, dans d'autres localités qui prient pour eux, leur rendent visite parfois, si c'est possible, les soutiennent, non seulement d'une manière financière, mais par tous les moyens possibles et imaginaires dans leurs efforts, parce qu'ils tiennent à cœur l'évangélisation, ils tiennent à cœur l'implantation de l'Église. Ils sont prêts à tout pour que ce petit groupe de chrétiens réunis en mission ou en annexe ou en essaimage ou je ne sais pas quoi, le nom, peu importe, réussisse, que ce groupe devienne une église, parce qu'ils ont cette vision de la multiplication, de l'implantation. Et ils se lancent corps, âme et porte-monnaie dans ce projet parfois un peu fou, n'est-ce pas, pour accomplir le mandat du maître, du chef. Comme le petit groupe persévère et fait effectivement le nécessaire en matière de témoignage, d'évangélisation, petit à petit, petit groupe devient grand, n'est-ce pas? Le petit groupe devient grand et est amené à chercher un lieu de rassemblement un peu plus adéquat à leur nouvelle situation. C'est la période de l'enfance et de l'adolescence qui commence. Comme ils ne cessent de grandir, le petit groupe devenu grand commence à avoir maintenant quelques difficultés parce que maintenant il a l'allure d'une église, une petite église. Elle a les ressources humaines et financières nécessaires pour être autonome. Elle est capable de se gérer toute seule comme une grande. C'est la période de la maturité et de l'âge adulte qui commence pour cette petite église. Le moment où elle peut commencer à envisager, elle aussi, de passer à la phase suivante, n'est-ce pas, celle de la maternité, comme les églises, les autres églises l'ont fait. La phase de la maternité. Vous savez, les statistiques en France parlent d'environ 17 ans pour qu'une église arrive au stade de l'âge adulte. 17 années, c'est beaucoup. 17 années pour qu'une église devienne une église, comme on dit, majeure, une église majeure. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire de certaines églises, même en France, dément ces statistiques. Ou alors, ce sont les exceptions qui confirment la règle, n'est-ce pas? Ce sont des églises, quand on analyse bien les choses, ce sont des églises plus conquérantes que les autres, qui osent prendre des risques, par la foi, bien sûr, qui ose prendre des risques pour le Seigneur. L'Église des Nations, dans le 12e arrondissement de Paris, a déjà implanté plusieurs églises, 6 ou 7 églises, en quelques années. Et les filles de cette église-là ont déjà implanté des filles aussi. Donc cette église est une église mère et grand-mère. Et elle continue à implanter des églises. Mais comment ils font ? Frères et sœurs, je pense que ce portrait pourrait être non seulement celui des églises du Nouveau Testament, que nous voyons dans le Nouveau Testament, qui ont vu le jour un peu partout au début du christianisme, et ce grâce au témoignage des chrétiens, qui éparpillés partout se rassembler toujours entre eux, parce que les chrétiens ont toujours eu ce désir de se rassembler entre eux, comme le Christ avait fait avec les disciples, n'est-ce pas? Et ils l'ont fait avec l'objectif non seulement de louer et de glorifier le Seigneur là où il se trouvait, de permettre l'édification spirituelle des uns et des autres, permettre la communion fraternelle, quelque chose de très important, mais aussi avec l'objectif d'évangéliser les pas encore chrétiens. C'est aussi le portrait de notre Église, parce que parfois c'est bien de rappeler un petit peu l'histoire de l'Église, n'est-ce pas? Grâce à l'initiative et à la persévérance au début donc, des familles Perkins et Turquet, qui se réunissaient dans un tout petit local, petit studio situé place Jaude, et deux années plus tard dans un local un peu plus grand, de 50 mètres carrés, situé dans un boulevard quelque part proche de Jaude, n'est-ce pas, que j'ai eu le privilège de connaître aussi. Et à cette époque-là, déjà avec la famille Le Guenec aussi, et d'autres personnes, François et d'autres, qui ont connu cette période. Grâce aussi, quelques années plus tard, à la vision de la famille Sutton, n'est-ce pas, qui a amené l'Église à acheter ses locaux ici. Et notre frère Olivier Claveau nous rappelait il y a 15 jours que quand il a acheté cette salle, elle était trop grande, n'est-ce pas, pour le nombre de personnes. Donc c'était aussi un projet un peu fou. Aujourd'hui, elle est trop petite, vous voyez. Quelques années plus tard, elle est devenue trop petite. Et c'était en 91 que ces bâtiments ont été achetés. Grâce encore aux efforts d'évangélisation de la famille Abbott, Dimitri et de ceux qui ont connu aussi cette période et qui les ont soutenus dans les efforts d'évangélisation. Oui, frères et sœurs, c'est grâce à la vision du travail à accomplir, grâce à la foi et à la persévérance de certains d'entre nous, n'est-ce pas, que notre Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Que notre Église est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Sans oublier ce que l'apôtre Paul dit dans les passages que nous venons de lire, n'est-ce pas? Que même si Dieu engage des ouvriers, des collaborateurs qui vont faire le travail en son nom, Paul, Apollos, Perking, Sutton, Turquet, Le Guenec, etc., c'est Dieu qui fait croître son Église. C'est Dieu qui fait croître son Église. C'est de lui que nous sommes collaborateurs. C'est de lui que nous sommes le champ de Dieu, comme il dit, le champ qu'il cultive. C'est de lui que nous sommes l'édifice, la maison qu'il rebâtit, la maison qu'il construit. Et maintenant, 27 années après, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de 27 années de vie d'Église? C'est vrai que depuis qu'on parle de problèmes de place dans notre Église, n'est-ce pas? Problème lié donc à quelques difficultés pour placer les enfants, où est-ce qu'on va les placer, les bébés, etc. Et même notre salle, parfois, pas tous les dimanches malheureusement, mais très souvent elle est pleine. Nous avons commencé donc à nous poser la question, et moi je me suis posé la question, est-ce que notre Église a la maturité nécessaire maintenant pour aller de l'avant et faire ce que d'autres ont fait par le passé? Notre Église serait-elle devenue vraiment adulte, majeure, autonome, c'est-à-dire responsable d'elle-même, capable de se prendre en charge, et donc de passer maintenant à la phase maternité, donner naissance à des filles comme font beaucoup d'autres églises? Je sais que cette question fait grincer beaucoup dedans, non seulement parmi nous, mais dans toutes les églises. Quand on parle d'implanter, de créer des annexes, des essaimages, ça fait toujours grincer des dents, toujours. On est tellement bien ensemble, n'est-ce pas? Quand la salle est chauffée, c'est très bien, on chante des très beaux chants, ça fait plaisir, n'est-ce pas? L'église de Jérusalem était tellement bien ensemble qu'il a fallu une bonne petite persécution pour que les chrétiens aient implanté des églises partout, vous voyez? Est-ce que nous allons attendre la persécution? L'un des spécialistes dans le domaine de la croissance des églises, Daniel Liechti, donne une triple définition de l'autonomie d'une église locale. Il parle d'autogestion, autonomie des ressources et autopropagation. Je pense qu'on pourrais dire beaucoup de choses et peut-être que mon analyse n'est pas la vôtre, je ne sais pas. Mais je dirais que dans le domaine de l'autogestion, nous n'avons pas trop de problèmes, nous n'avons pas vraiment de problèmes. Notre Église est tout à fait capable de se gérer elle-même, on le fait. On a des compétences dans tous les domaines, ou dans pratiquement tous les domaines de la vie de l'Église, on est capable de se former, n'est-ce pas, dans certains domaines. On avance toujours, on est capable de faire beaucoup de choses. Et dans les domaines où il y a parfois des lacunes, des déficiences, on est capable de remédier à ces choses-là, de se former. Et voilà. Donc, moi, je pense que dans le domaine de l'autogestion, on n'a pas de problème. D'ailleurs, l'organisation de l'Église est impeccable, n'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais vu une Église aussi bien organisée que l'Église baptiste de Clermont-Ferrand. Je vous dis, j'étais étonné quand je suis arrivé ici. J'étais étonné. Peut-être trop pour certains, n'est-ce pas? Trop organisé pour certains. Dans celui de l'autonomie des ressources humaines et financières, je ne sais pas si le trésorier va me contredire, ça se passe bien. Mais nous pouvons sans doute mieux faire. Dans celui des ressources humaines, par exemple, nous avons encore besoin, me semble-t-il, oui, je dois l'avouer, d'une croissance intérieure de l'Église. Nous avons besoin encore d'une croissance intérieure de l'Église pour pallier au nombre insuffisant de personnes, surtout dans le domaine de l'école dimanche, je pense. Il ne faut pas que le travail retombe toujours sur les mêmes. Nos monitrices de l'école dimanche ont besoin aussi d'être avec nous pour écouter la parole de Dieu, pour partager avec nous la deuxième partie du culte. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, oui, on aurait besoin encore, et peut-être dans d'autres, je ne sais pas. Depuis le début, que j'encourage les chrétiens baptisés de notre Église à devenir membres, à s'engager totalement dans leur Église, vis-à-vis de nous tous, mais aussi vis-à-vis des autorités, parce que c'est un témoignage aussi pour les autorités. Vous savez, les autorités pensent que nous, ici, on a une quarantaine de personnes, alors que si on compte le nombre de personnes qui sont dans le répertoire de l'Église, l'année dernière, j'ai compté 130 personnes. Là, les autorités ne le savent pas. Le petit groupe, l'Église baptiste, c'est quoi ça? Adhérons à l'Église totalement, frères et sœurs. Adhérons, passez un témoignage, même pour les autorités. Et quand on adhère totalement à l'Église, les anciens de l'Église ont moins de mal, n'est-ce pas, à demander à telle et telle personne de s'engager un peu plus dans l'enseignement des enfants et dans certains ministères de l'Église. Nous avons sans doute à faire un travail urgent d'approfondissement de la vie spirituelle de chacun, et je pense que le parcours Bâtir sur du solide va dans ce sens. Pour certains d'entre nous, il leur faut sans doute trouver la joie non seulement du salut, mais la joie d'appartenir au Seigneur et de le servir au sein de l'Église. Oui, la joie de le faire, la joie d'aimer cette Église à fond. Aimer cette Église à fond, de lui donner le meilleur de soi, la joie de bâtir, comme dit l'apôtre Paul, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et non pas avec du chaume ou du torchis de paille. Toujours dans le domaine des ressources humaines, je pense que nous le faisons déjà, il nous faut continuer à former les chrétiens, à former les membres de l'Église, à nous former afin que nous soyons capables de toujours mieux servir le Seigneur dans tous les domaines de compétences, mais je dirais surtout dans celui du témoignage. Hier dans la voiture, le voyage a été long, et Eric parlait de la nécessité de quelques séminaires d'apologétique chrétienne, et je dis oui, je suis tout à fait d'accord. L'apologétique chrétienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout ce qui contribue, tous ces arguments qui contribuent à rendre crédible la foi chrétienne. Et il y en a beaucoup. Cela peut nous permettre de mieux témoigner, de mieux évangéliser, n'est-ce pas, et de mieux connaître aussi la foi chrétienne. C'est utile, c'est doublement utile. D'autre part, la meilleure manière d'avoir suffisamment de personnel dans tous les secteurs d'activité de l'Église, on sait bien, il faut aller les retrouver dans la rue, par le témoignage, n'est-ce pas, par l'évangélisation, faire des disciples, dit le Seigneur, oui, faire des disciples, des nouveaux disciples, les enseigner, saigner ces nouveaux convertis. Pour que le nombre de personnes engagées dans le ministère augmente, il nous faut non seulement encourager les pas encore membres de l'Église à devenir membres, mais encourager aussi les pas encore chrétiens à devenir chrétiens, à se convertir au Seigneur. Toujours la vieille question, mais comment faire, n'est-ce pas? Comment faire? Il faut faire. Mais un sondage qu'on va montrer, je suis en train d'être trop long, un sondage effectué il y a quelques années en France sur la manière dont s'opère l'intégration dans l'Église des nouveaux membres dit que 4 à 6% ont été admis à la suite d'actions de colportage, de distribution de tracts dans leur quartier. 6 à 8% à cause du travail pastoral. 2 à 4% à cause du programme d'activité de l'Église parmi les enfants, la jeunesse, etc. Moins d'1% par les campagnes d'évangélisation, ces grosses campagnes d'évangélisation. Et 70 à 90% par l'influence des membres de l'Église dans leur cercle de famille, d'amis, de travail. Il n'y a pas photo, n'est-ce pas, comme disent les jeunes. Il n'y a pas photo. C'est un sondage très instructif, n'est-ce pas? Et c'est le même partout dans le monde. C'est le même partout dans le monde. C'est pour ça que nous ne devons pas nous arrêter de dire quand les chrétiens témoignent, l'Église évangélise. Donc ne disons pas que notre Église n'évangélise pas. Si nous le disons, c'est parce que nous ne sommes pas en train de témoigner. Quand les chrétiens témoignent, l'Église évangélise. Et les petites actions qu'on fait de temps en temps, des concerts, des soirées théâtre, c'est juste des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse faire venir des amis et voilà, les intégrer petit à petit dans la connaissance de l'Évangile, c'est tout. Quand les chrétiens témoignent, l'Église évangélise. Toujours dans le domaine des ressources humaines, je vais dire quelque chose de personnel. Il nous faut aussi laisser une certaine liberté d'action au sein de l'Église. Une certaine liberté d'action au sein de l'Église. Et je dirais même au sein de nos cultes. Si nous avons la bonne habitude de louer le Seigneur dans nos maisons, nous aurons toujours quelque chose, une contribution à apporter à nos cultes. Toujours. Et cette spontanéité de nos cultes, finalement, sera une spontanéité organisée parce que nous avons préparé quelque chose dans la semaine pour apporter au culte. Peut-être que nous, les animateurs de culte, devons donner un peu plus la parole à l'Église lors de nos cultes, n'est-ce pas? Non simplement pour le choix des chants, mais aussi pour des partages bibliques, des témoignages. Libérer la spontanéité des uns et des autres, quitte parfois à corriger avec amour, s'il faut vraiment corriger certaines choses. Mais nous sommes une famille, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Libérer la spontanéité d'action des uns et des autres, afin que ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, n'aient pas peur de commencer à collaborer à la vie de l'Église. Moi, je me place à la place des nouveaux quand ils arrivent. Ils se disent, mais tout est déjà pris, je ne peux rien faire, donc je viens au culte. Si je peux placer une petite prière, je la place, mais après, tout le monde fait tout. Libérer la spontanéité d'action des uns et des autres afin que nous puissions découvrir des dons et les utiliser au service du Seigneur. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans l'Église, il me semble-t-il, que personne ne doit avoir le monopole de quoi que ce soit. Nous qui sommes responsables d'activité, nous devons prendre conscience que nous sommes davantage des facilitateurs d'initiatives, des facilitateurs d'activités, des facilitateurs de vie, et non pas des contrôleurs qui exigent que tout passe par nous. Des facilitateurs de vie. Dans la Bible, l'image qui apparaît le plus souvent, ce n'est pas l'image de l'entreprise, moi je ne la trouve pas dans la Bible, c'est l'image de la famille. Et dans la famille, nous laissons nos enfants faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et même quand le dessin n'est pas très beau, on dit, mais c'est très, c'est formidable, mon fils continue, n'est-ce pas? Parce que c'est la famille. Dans le domaine des ressources humaines, d'une manière générale, ça se passe bien aussi. Ceci dit, si nous décidons d'élargir l'espace de notre tente, n'est-ce pas, puisqu'on n'a pas plus assez de place, ou si on décide d'ouvrir une annexe quelque part à Cournon, ou à Issoire, ou à Brioude, ou je ne sais pas où, sans doute que dans ce domaine-là, il va falloir faire des efforts. se donner corps, âme et porte-monnaie, comme on disait tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais c'est pour le Seigneur. C'est mettre, faire valoir notre argent pour le ciel. Daniel Liechti affirme, je pense que j'ai aussi ce transparent, qu'une église majeure n'utilise pas tous ses moyens financiers pour son propre financement ou sa survie, mais libère des fonds pour l'autre propagation. Et je crois que dans ce domaine, nous ici, nous ne sommes pas au stade de la survie. Et je peux le dire parce que l'église me paye un bon salaire. Bon, notre frère Eric, malheureusement, ne reçoit pour le moment rien. Il doit assurer sa vie professionnelle et ses besoins en plus du travail de l'église, mais j'espère qu'un jour ça va venir aussi, n'est-ce pas? Mais, bon, on n'a pas le couteau à la gorge, hein? Ça tourne, mon salaire tombe aussi chaque mois, ils ont fait beaucoup de choses pour l'église, l'évangélisation, etc., etc. Nous soutenons la mission baptiste européenne, la mission intérieure baptiste. Nous faisons des efforts d'évangélisation locale, ça coûte l'argent, bien sûr, mais nous le faisons. Dans celui de l'autopropagation ou auto-reproduction, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, je pense, surtout si l'on considère que l'essaimage est un commandement biblique. Daniel Liechti dit que l'autopropagation est plus que des efforts d'évangélisation dans le champ d'influence d'une église existante. L'auto-reproduction n'est pas une simple option, mais une expression naturelle de la vie spirituelle d'une église locale. Tant qu'une église locale ne se reproduit pas, elle ne peut être considérée comme majeure et elle doit par conséquent être amenée vers cette réalité. L'auto-reproduction doit être considérée comme normale par chaque église locale. Elle est probablement le signe le plus distinctif de la véritable majorité. Bref, selon notre frère qui est spécialiste dans ce domaine, une église qui donne vie à des filles, qui est passée à la phase maternité, une église est une église adulte. Une église adulte. La forme de la procréation, peu importe, je l'ai dit tout à l'heure, peu importe. Ça peut être un groupe de maisons, un petit groupe de maisons quelque part, peu importe. Mais il faut donner naissance à des filles. C'est la tâche que le chef nous a confiée. Je vais terminer avec ce dernier transparent. Louis Bourque est un pasteur qui est en train d'ouvrir plusieurs implantations d'églises. Et c'est là que je puise mon inspiration sur ceux qui font et comment ils font. Bon, ce n'est pas la loi des Perses et des Mèdes, c'est ça, des Mèdes et des Perses, mais ça fait réfléchir quand même. On termine par là. Voilà, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Les églises vivantes dépensent toujours plus qu'elles ont de revenus. Les églises mortes n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Les églises vivantes ont beaucoup de problèmes. Les églises mortes ont beaucoup d'espace vide. Les églises vivantes peuvent avoir des enfants bruyants. Les églises mortes sont tranquilles comme dans un cimetière. Les églises vivantes continuent de changer leur façon de faire les choses. Les églises mortes ne voient aucun besoin de changement. Les églises vivantes grandissent si vite que vous ne pouvez pas connaître le nom de tous les gens. Dans les églises mortes, tout le monde connaît le nom de tout le monde. Les églises vivantes supportent la mission à l'étranger. Les églises mortes gardent l'argent à la maison. Les églises vivantes servent avec foi et dans la prière. Les églises mortes travaillent uniquement parce qu'elles voient. Les églises vivantes deviennent plus grandes que les installations scolaires. Les églises mortes ont des bâtiments pour épargner. Les églises vivantes accueillent toutes les classes de la société. Les églises mortes ne reproduisent qu'une sorte de membres. Les églises vivantes ont des membres qui lisent et apportent leur Bible. Dans les églises mortes, les membres le font rarement. Les églises vivantes ont des membres qui supportent avec enthousiasme les ministères. Les églises mortes n'ont pas de ministère, seulement des fonctions. Les églises vivantes ont des membres qui cherchent quelqu'un à aider. Les églises mortes ont des membres qui cherchent quelqu'un à critiquer. Les églises vivantes ont des membres qui atteignent leur société pour partager leur foi en Jésus-Christ. Les églises mortes ont des membres qui n'ont pas le temps et le désir de la partager. Les églises vivantes implantent des églises. Les églises mortes les craignent. Clermont-Ferrand, Église baptiste Clermont-Ferrand.